Ah, chers frères, chères sœurs, c'est le moment de s'arrêter sur la parole de Dieu. Et comme annoncé, on poursuit notre avancée dans cette lettre de Paul aux Corinthiens. C'était le grand titre de Corinthiens, être différent, un appel à être différent, non pas différent par rapport à la société, par rapport aux pensées qu'étaient les leurs, mais c'est un appel à nous-mêmes à être différents, agir différemment. Ça, c'est la grande question, la grande difficulté d'agir différemment en tant que croyant. Et on voit que le monde n'est pas prêt des fois à agir différemment. Le monde agit selon son propre cœur. Est-ce que le monde est prêt à changer pour le bien d'une minorité, pour le bien des plus faibles? Est-ce que la société est prête à renoncer à un projet qui rapporterait de l'argent pour le bien de quelques-uns? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on est prêt parfois dans notre travail à renoncer à quelque chose pour pas blesser un collègue, pour pas blesser un autre? Changer pour l'autre, sans que autre chose vienne interférer. C'est très rare. Ça existe, mais c'est très très rare. Dans le monde, dans la société, il y a quelque chose qui est dit souvent, c'est ça va être souvent l'argent qui va décider du reste. Et après, on s'occupe des autres. Et c'est comme ça qu'on agit avec un cœur non régénéré. On est prêt à écraser l'autre. Ma collègue disait, moi tant que je vais bien, les autres je m'en fiche. Parce que c'était sa manière de réagir et je lui en voulais pas, parce que tout le monde réagit comme ça. Si j'avais interrogé mon autre collègue, elle m'aurait dit, moi je vais bien, les autres c'est pas grave. Moi ça me plaît. Si l'autre ça lui plaît pas, c'est pas grave. Et puis si l'autre fait pas ce comme moi je pense, il fait mal. Et puis si l'autre range pas comme il faut les produits, il est à mal fait, parce qu'il range pas comme moi j'ai dit qu'il fallait ranger. Et on est comme ça souvent, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On va s'enfermer dans nos schémas, et parfois on n'est pas prêt à changer nos schémas pour le bien de l'autre. Dans l'Église, comment on est après appelé à vivre? Ça c'est l'appel de Paul, à agir différemment. Il dit, est-ce que vous êtes prêt à soutenir votre frère, votre sœur, moins infermi, en renonçant à quelque chose? C'est pas toujours évident. Est-ce que moi aussi, je suis prêt à aller parler à mon frère, ma sœur, qui m'a peut-être choqué, qui m'a peut-être surpris? Est-ce que je suis prêt à aller lui demander pourquoi il pense ça, pourquoi il agit comme ça? Il y a quelque chose qui a peut-être pu me heurter dans ma conscience? Parce que on n'est pas tous pareils. Suis-je prêt à user sagement de ma liberté en Christ pour ne pas nuire à mon frère et ma sœur? Ça aussi, Il y a des personnes qui disent « je suis libre !» Et on le verra, ça c'est les Corinthiens. Ah, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, au mépris des autres, de leurs frères. Et là, Paul dit « agissez différemment !» Vous ne devez pas agir ainsi, c'est le grand appel et c'est l'appel par l'amour. Et c'est ce qui va, pas opposer, mais c'est ce qui va mettre en parallèle l'amour et la connaissance, et 1 Corinthiens 8, je vous propose donc de lire le texte, de lire le texte d'abord et on continuera par la suite. 1 Corinthiens 8. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il connaît encore rien comme il faudrait connaître. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, pour qui nous vivons, et le seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent ces viandes comme étant sacrifiées, comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience, qui est faible, est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de la viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Voilà, jusque-là, je vais prier. Bien, merci Seigneur parce que ta parole est vérité. Et si tu as désiré que ce qu'a écrit Paul pour les Corinthiens nous parvienne, c'est parce que nous aussi nous avons à apprendre, nous aussi nous avons à revoir parfois comment nous agissons. Alors merci de mettre dans nos cœurs maintenant ce que tu veux nous dire, ce que tu veux rappeler, ce que tu veux peut-être nous apprendre. Parce que tu es celui qui dispose la vérité, qui dispense la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Donc voilà le texte de Corinthiens. Et quelques rappels, hein. Quelques rappels pour le... Donc Corinthe, on a vu, c'était une grande ville. Donc j'ai remis, hein, avec plein de temples. Ça, c'est aussi important, ça a son importance dans le contexte où Paul écrit cette lettre, hein. On avait vu, c'était une très grande ville. Et dans cette grande ville, il y avait environ 80 croyants. Alors les chiffres, voilà, il y a eu plusieurs chiffres. Disons que c'est beaucoup de personnes. Et à l'intérieur de toutes ces personnes, un petit groupe, 60, 80 croyants. C'est l'église de Corinthe. Et c'est ces personnes-là qui doivent faire la différence. Voilà ce que Paul leur dit. Tout le monde vit autrement. Vous êtes 0,1% de la population. Vous devez faire une différence. Et vous êtes nés là. Il y avait très très peu de juifs convertis. C'était surtout des pagano-chrétiens, donc des gens qui étaient issus du paganisme. Donc il y avait quand même pas mal de différences. Et c'est pour ça que cette lettre essaye de traverser cette culture. On a vu, hein. L'église de Corinthe était imprégnée par cette culture. On a vu que cette lettre n'est sûrement pas la première, hein, qu'elle a écrite à Corinthe. Et Paul, maintenant, il va répondre aux questions posées, hein, par la lettre et puis par ce qu'a pu lui dire l'entourage de Chloé. Hein, ça, c'était Corinthiens 1, verset 11, où les personnes qui ont apporté des nouvelles de Corinthe à Paul, et peut-être une lettre, et ben là, il commence à répondre. Hein. On a vu la semaine dernière qu'il avait répondu à propos du célibat, qu'il avait répondu à propos du mariage, à propos de comment agir pour les célibataires, plein de choses qu'il avait répondu. Et là, il dit maintenant, je vais répondre à la deuxième question, c'est cette deuxième question. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que Corinthe était remplie de temples. Il y avait plein de viande qui était consommée au marché ou au temple, parce que les temples vendaient aussi leur propre viande sacrifiée aux idoles. Et ça pouvait poser des questions aux chrétiens. Certains disaient, je peux le manger, d'autres je peux pas le manger, et si je le mange, qu'est-ce qui se passe? Ça change tout pour eux, parce que c'était pas du tout leur... C'était jamais posé la question avant, mais maintenant, avec la connaissance, avec ce qu'ils voulaient savoir, ils ont envie d'avoir cette réponse aux questions, parce que visiblement, il y a pas une très bonne réponse, pas une très bonne accueil dans l'église de Corinthe, par rapport à ce qui était les viandes sacrifiées aux idoles. C'est pour ça que c'est important de remettre ce contexte. Et voilà, là, il va dire connaissance ou amour. Et ça, c'est Paul qui commence, hein, avant même de répondre aux questions. Hein, il va dire, attention, je vais faire une petite parenthèse. Hein, il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. Et là, il va dire, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Voilà, ça c'est un des soucis de l'église de Corinthe, on l'a vu, c'était par rapport à son enracinement, par rapport à là où elle était. Cette connaissance, hein, on avait vu la connaissance rhétorique du langage, hein, dans les premiers chapitres, ils préféraient la sagesse des hommes parfois qui parlaient bien, plutôt que la vérité de l'évangile. Et Paul combattra toujours ça, hein, en disant, oui, c'est bien de connaître. Il oppose pas connaissance à amour. Hein. Il fait la différence entre la connaissance qui peut rendre orgueilleux, alors que l'amour, la connaissance dans l'amour, sert à édifier. Et c'est ce qu'il leur dit. Il dit, nous savons que tous ont la connaissance. Là, ça c'est la traduction Semeur. Paul reprend visiblement soit leur lettre, soit ce qu'il pense. Les chrétiens de Corinthe disaient, non, mais tout le monde sait ça. C'est bon. On n'a pas besoin de savoir. On sait, on a tous la connaissance. Un côté un peu orgueilleux de, ouais, on sait, c'est bon, la viande sacrifiée aux idoles, on sait. Il n'y a pas de problème, on a tous la connaissance voulue. Ils étaient des sachants, c'est des gens qui savent. Donc ils disent, c'est bon, on peut faire, on est éclairé, on a eu des choses, on sait que les idoles, c'est rien. Paul, il dit pas le contraire, il dit, oui, ça c'est vrai. Mais faites attention. Parce que la connaissance vous rend orgueilleux dans votre manière, de gérer les choses. Les chrétiens de l'église de Corinthe, elles étaient éclairées. Elles voulaient savoir plein de choses. Et depuis le début, Paul, il est en train un peu de détruire leur idéal de... Et qu'on va continuer, hein, leur idéal de chrétien. Il mélange parfois un peu les deux. Le savoir, la connaissance, les gens qui parlent bien, ça, ce qui leur fait plaisir. Il dit oui, c'est bien la connaissance, mais vous en faites un mauvais usage. Vous n'avez pas d'amour. Cette érudition qu'ont recherché les Corinthiens, de par leur culture, hein, ça on l'avait vu, hein, cette culture qui aimait, qui encensait la sagesse, et des fois les rendait orgueilleux au point de ne pas agir différemment avec les personnes moins affermies spirituellement dans leur propre église. Et là, on parle de 60-80 personnes, à pas me dire qu'ils ne connaissaient pas, qui sont perdus au milieu d'une grande ville païenne, et au lieu de se serrer les coudes en disant ben on va tous s'entraider, eux ils avaient là c'est voilà moi je sais, toi tu sais pas, pff, ouais. Et quelque part ils n'aimaient pas comme ils devaient aimer. C'est pour ça que Paul l'oppose, hein. Il leur dit, hein, c'est bien la connaissance, mais la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Et c'est ce qui les appelle à vivre. Il les appelle vraiment à vivre ça. Et il dit, une connaissance sans amour, c'est un danger pour de l'orgueil, et un amour sans connaissance, c'est un danger d'égarement. Mais là, Paul est en train de leur dire, vous connaissez, mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Ou pas suffisamment. Ou pas différemment. C'est bien d'aimer les gens, mais là, il dit différemment. Comme Christ aime l'Église. Paul oppose la connaissance pure sans amour à la connaissance dans l'amour qui construit l'Église. Il faut grandir avec la connaissance, mais grandir en amour également. Paul n'est pas en train de dire « vous devez rien savoir ». Il est en train de dire « que votre savoir soit aussi dans l'amour pour les frères et sœurs ». L'apôtre prend l'Église parce que sa connaissance cérébrale, tout ce qu'il savait, l'empêche de vivre un réel amour. Et cet amour qui prouve que Christ est mort pour eux, cet amour qui sert aussi non seulement à l'intérieur de l'Église, mais de témoignage à l'extérieur, en disant « ces gens-là sont différents ». En annonçant que tout le monde possède la connaissance, l'Église de Corinthe juge bon de ne pas prendre soin de ceux et celles qui sont moins avancés, moins infirmis, qui se posent peut-être des questions, qui sont encore dans le doute. Il y a des personnes qui ont des fragilités. Il y a des personnes qui ne buvaient jamais aux agapes, jamais de vin. Mais c'était des anciennes personnes qui avaient eu des problèmes d'alcoolique. Ils avaient eu des problèmes d'alcoolisme et ils n'avaient jamais bu. Et parfois, par un manque d'amour, tu sais, tu risques rien, tu peux boire un peu de vin. Et après, on peut juger cette personne ou ne pas faire attention à sa vie. Il y a des gens qui luttent contre plein d'addictions et quand ils en sont séparés, ils refusent. Ils refusent de reprendre ce genre de choses, ni même de s'en approcher. Il y a des frères âgés qui ont dit, eux, ils ont été libérés d'un coup de la cigarette et depuis, ils n'en portent même plus une. Et il dit, comme par hasard, le jour où j'ai été libéré de ça, des gens me disaient, tiens mon paquet de cigarettes, je refais mon lacet. Il était très jeune, mais il dit, voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé d'agir ainsi parce que c'est leur vie à eux. Des fois, on a aussi des personnes qui se convertissent d'un milieu musulman ou juif et qui vont pas manger de porc de toute leur vie. Parce que c'est inscrit. Et c'est pas une raison pour leur dire, nous, avec notre savoir, mais tu sais, tu peux manger tout ce que tu veux. Et là, c'est ce qu'il dit. Paul, il dit, laissons les gens, vous pouvez, il va revenir, hein, mais il dit, mais aimez plutôt que connaître. N'oublie pas le frère qui, lui, ben, ne sait pas forcément, ou a peut-être un arrière-plan. Paul écrit, il dit, voilà un remède pour vous, c'est connaître Dieu, aimer Dieu. Il dit, il faut vraiment, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît rien. En fait, il est en train d'inverser les valeurs. Il dit, tu te vantes de connaître les choses, mais en te vantant de connaître, tu prouves que tu connais pas assez. Parce que tu connais pas l'amour, parce que tu connais pas comment faut réagir, parce que tu connais pas comment agir différemment. Mais il dit, voilà, si quelqu'un aime Dieu, et là, il remet, aime d'abord Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Et Dieu le connaît. Et Dieu nous reconnaît et nous aide. Et nous aide à vivre. Les Corinthiens déclaraient la connaissance, mais cette connaissance déclarait leur ignorance. Leur ignorance de qui? Leur ignorance de réellement cet amour en Christ. Paul réoriente l'amour que Dieu donne. L'amour que Dieu donne pour être connu de Dieu, pour vivre une vie qui lui fasse plaisir, pour vivre une vie qui soit dans son Fils, pour vivre une vie qui fasse la différence. Un amour réciproque qui fait grandir l'Église. Et il y viendra par la suite. Hein. Il y viendra par la suite. C'est pas anodin ce qu'il dit là. C'est déjà des premiers prémices qui va revenir sur l'amour. C'est faire du bien à l'autre, là où il en est. Prendre soin des personnes. On a tous un arrière-plan différent. Et on pourrait des fois se questionner sur plein de choses, on n'aurait pas la même idée. Et c'est une raison pour nous targuer de notre connaissance et écraser l'autre qui pense pas comme nous. Et c'est là le problématique pour la viande sacrifiée aux idoles. Il dit attention, c'est pas la même chose. Faites attention, ne tombez pas dans l'orgueil. Et il n'a pas encore répondu tout à fait aux questions qui remet la relation d'amour avant tout le reste. Il dit pour ces questions-là, c'est pas des questions importantes. Donc qu'est-ce qui est important ? L'amour et la connaissance de Dieu à vivre comme Christ a vécu. Et une fois que Paul a fait ça, ben il illustre par le propos Dieu seul. Là, il va illustrer, il va répondre à la question qu'on lui a posée. Ça, c'est 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Il dit, donc, pour ce qui est du manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, il reprend la question. Il dit, voilà, on m'a posé une question. Je vous dis que la connaissance, ça peut rendre orgueilleux. Ce qui est important, c'est l'amour, l'édification. Il a repris ça et maintenant, il dit, voilà, je réponds à votre question. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, c'est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait qu'il y ait beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et par qui nous vivons. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Voilà, là, Paul recentre directement, il répond à la question. Il entre dans le sujet et dit, ah non, mais en fait, les idoles, c'est rien du tout. Il existe d'autres dieux, ça c'est les noms qu'on donne aux hommes. Mais c'est rien en fait, tout ça c'est rien. Et rappelons-nous, alors nous aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'importance, mais il écrit à des Corinthiens qui sont entourés de temples, où il y a un vrai business, des idoles, des dieux, des plein de choses, où ces gens ont grandi en leur disant que ces dieux avaient des pouvoirs, qu'ils agissaient sur la vie. Et puis Paul il dit non, tout ça c'est rien. En Jésus-Christ, on sait qu'il y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu. En fait, il révolutionne quand même leur vie. En leur rappelant, parce qu'il avait déjà sûrement déjà dit, mais il dit, vous rappelez pour nous, et les inclut dans le lot. Il dit pas pour tous les Corinthiens, il dit pour nous, là. Nous, on est des croyants, nous, on est en Jésus-Christ. Mais pour nous, on le sait que tout ça, ça n'existe pas. On le sait. Il y a des dieux, il y a des choses, ça, c'est les noms des hommes, mais tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Il y a des statues, il y a des personnes qui se disaient Dieu, il y a plein de choses, il y a plein d'idoles. On le voit aussi dans les actes des apôtres. Quand ils guérissent, Paul et Silas guérissent, on veut leur sacrifier des taureaux en disant, ah ben, c'est des dieux qui sont venus sous forme humaine. Il y a Zeus et puis son serviteur. Alors, on va sacrifier pour eux et ils déchirent leurs vêtements. Parce que dans la culture dans laquelle ils étaient, ce qu'ils ont fait, c'est égal les dieux qui servaient, qui connaissaient. Donc là, il dit pareil, mais là, c'est pour les Corinthiens. Il leur dit, oui, il y a des dieux, mais tout ça, ça vaut pas, ça n'existe pas. Parce que pour nous, et là, ils ressentent, pour nous, c'est Dieu seul. Pour nous, c'est Dieu seul, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, par qui tout existe et par qui nous vivons. Il est en train de résumer que Dieu, c'est lui qui est en centre de tout. Et le même, aujourd'hui, c'est pareil, même si, c'est comme je disais, il n'y a plus de temple. Parfois, il y a des idoles qui nous perturbent la vie en creusant dans nos cœurs, on le voit, hein. On a nos propres idoles. Eh ben, elles n'existent pas plus qu'elles existaient au temps de Corinthe. Et Paul nous invite aussi, nous, à laver nos idoles, même si là, c'est pas le but premier, mais c'est pour dire que les viandes sacrifiées aux idoles, elles sont sacrifiées à rien, en fait. Il est en train de leur dire, c'est pas grave. Mais c'est Jésus seul qui donne la vie et qui crée toute chose. Et dit Dieu, c'est le Dieu seul. Et ça, ça a été répété dans les églises qui étaient, judéo-chrétienne, il y a eu moins de problèmes, parce que les juifs répétaient tout le temps, aujourd'hui encore, ce qu'on appelle le Shema Israël, Dieu, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Il y avait moins de problèmes dans certaines églises, mais là on est dans une église pagano-chrétienne qui a vécu dans le paganisme, et il leur dit, oui, attention, tout ça, pour nous, ça n'existe pas, tout est en lui. Ça, vous pouvez vivre l'amour de le connaître, le Dieu seul. Et ça, c'est un peu son résumé. C'est un peu son résumé. Mais il s'arrête pas là. Paul, il a quand même, oui, il y a une réalité. Il a parlé de l'amour en début. Il dit ce que c'est les idoles, mais il dit, ah, c'est pas fini. Parce que je sais bien, voilà, Paul il rappelle, hein, les idoles et les dieux ne sont rien. Il dit aux Corinthiens de connaître cette différence, hein. Nous savons que Dieu est seul, existe. Christ est le Seigneur par qui tout existe, ça il le sait. Et ça, les Corinthiens devraient le savoir. Mais il est aussi conscience. Et c'est pour ça qu'il pousse après à agir différemment par amour des frères et sœurs. Parce que ça, c'est ce qu'on devrait savoir, mais ça, Paul, il n'est pas naïf. Il est dans la culture, il sait, oui, on le sait. Mais comment le vivre? Eh ben, en agissant différemment. Et ça, c'est les premiers versets du passage 7 à 10, où il dit par amour des frères et sœurs, il dit, mais tous n'ont pas cette connaissance. Vous voyez, Paul, il est conscient, il dit, tout ça, c'est rien, on est d'accord, nous sommes d'accord, mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et c'est là, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des frères et sœurs, Paul fait cette différence. Il dit, regardez, ça c'est ce qu'on devrait savoir, mais j'ai conscience que tous n'ont pas cette connaissance. Et l'amour doit être en action. Et là, il reprend. Il va reprendre son verset, il va reprendre sa pensée, son fil de pensée. Il dit, attention, tous n'ont pas cette connaissance. Tous n'ont pas encore arrivé. Les idoles, c'est rien, je viens de le dire. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est très bien. Mais certains frères et sœurs de Corinthe avaient encore du mal à se dessaisir ou à se saisir des promesses de Dieu complètement et étaient perturbés par ces idoles et perturbés du fait de manger de cette viande ou de voir leurs frères en manger. Ils avaient encore des questions. C'était pour eux un piège. Parce que quand ils en mangeaient, ils avaient une culpabilité. Hein. Dans d'autres traductions, il y a souillé et d'autres traductions, c'est une conscience coupable. C'est-à-dire, ils se sentaient coupables de manger cette viande parce que elle était encore pour eux, marquée dans la manière dont elles perçoivent les idoles. Donc, on a bien conscience que c'est un travail que le Seigneur fait. Il change petit à petit. Certains vont dire, j'ai compris, j'ai la connaissance, je sais. Mais il y a peut-être à côté le frère, la sœur qui dit, je suis encore en train de découvrir, c'est difficile pour moi, je n'ai pas encore tout compris. Là-dessus, je suis en chemin. Eh ben, viens m'aider plutôt que faire de moi un piège. Et ils ne savaient pas, et du coup, voilà, leur conscience était coupable en mangeant de cette viande. Et ils se sentent pas bien, ils se sentent pas bien à le faire, ils se sentent pas bien à vivre certaines choses. Ils sont mal à l'aise, et du coup, leur conscience les accuse en voulant faire comme les grands frères, en disant, ben nous, je vais faire pareil. Paul comprend parfaitement la situation. Il n'est pas celui qui se met en haut en disant, voilà, il aurait pu arrêter à 1 Corinthiens 7, 6, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, merci les Corinthiens, hop, ça sert à rien, la viande sacrifiée aux idoles, voilà, je m'arrête là, je passe à autre chose. Non, il est conscient. Il dit, mais tous n'ont pas cette connaissance, mais il y a des fragilités. Et il dit, ben à vous d'agir différemment. Je comprends cette situation, mais ben, que les faibles compte sur les fiables. Vous avez vu, il y a une seule lettre qui bouge, et de faible, on passe à fiable. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que quand le Seigneur nous a fermis, eh ben, on est plus faible. Et lui, au lieu de s'en pendre au plus faible, en mangeant de ces choses, eh ben, il leur dit, ben, attention, prends soin, exhorte, affermis, explique. Cet amour qui faisait défaut aux Corinthiens était perturbant pour d'autres, à cause, comme il l'a dit, de la manière dont ils percevaient encore les idoles. Ils percevaient l'idole comme étant quelque chose, et comme elle était quelque chose dans leur cœur encore, eh bien ça faisait obstacle à leur liberté. Et comme il dit, hein, manger ou pas manger, ça apporte rien. Donc, ils pouvaient facilement s'en passer. Ça, il finit pour dans le verset 8, il fait le lien, il va faire le lien après. Hein. Il dit, quand on mange rien, il dit donc veuillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les plus faibles. Si quelqu'un, en effet, te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table d'un temple d'idole, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors, en fait, il leur dit, vous qui avez cette connaissance vis-à-vis des autres, par amour vis-à-vis des frères et sœurs, n'agis pas ainsi. Toi, tu sais, tu peux te mettre assis à la table d'un temple, manger cette viande, il n'y a aucun problème. C'est bien. je dis pas le contraire, mais il dit, toi, ta liberté, en fait, ta liberté, elle devient quoi ? Un obstacle. Ta liberté que tu revendiques, ta connaissance que tu revendiques, devient un obstacle à ton frère, devient un obstacle à ta sœur qui est plus faible. Et du coup, elle est encouragée dans sa conscience à manger quelque chose sacrifié aux idoles, alors que pour elle, elle se condamne. Et là, c'est là le problème. Et là, pour Paul, s'il dit ça, c'est pas quelque chose que vous devez vivre. Donc, il peut agir différemment. Parce qu'il le dit, t'en manges pas, ça sert à rien, en fait. Si t'en manges, ça te rapproche pas de Dieu, si t'en manges pas, ça t'ôte rien. Donc, pourquoi tu vas en manger si tu sais que ça peut faire tomber ton frère? Il n'est pas en train de faire une ode à la liberté, je fais ce que je veux en Christ. C'est vrai? Et il dit, tu fais ce que tu veux, dans le cadre de prendre soin du plus faible, de prendre soin de ton frère. Aime-le aussi. C'est bien, toi tu sais, mais tous n'ont pas cette connaissance. Et aujourd'hui, on pourrait trouver la même chose. Hein. Peut-être pas pour les viandes sacrifiées aux idoles. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un d'entre vous assis à un temple, en train d'en manger. Mais voilà, parfois, nous, on va réagir, on va avoir des réactions, on va faire des choses qui peuvent choquer notre frère. Parce que nous, on va être à l'aise avec cette chose, on n'aura pas de problème. Mais peut-être que mon frère, ma sœur va être choqué. Et est-ce que je suis prêt à ne plus faire ce genre de choses? Est-ce que je suis prêt à faire de ma liberté, j'allais dire, un absolu, quitte à choquer mon frère, et tant pis si toi t'as pas compris? Ou de se dire, non, je vais prendre soin aussi de mon frère, de ma sœur, et on va regarder ensemble. Et en attendant, je vais plus agir de cette manière. Parce que ça fait mal. Ça m'est arrivé une fois, j'avais pas compris la prédication, je suis allé voir le presteur m'a dit, non, mais c'est comme ça, si t'as pas compris ton problème. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que j'étais pas d'accord. Et on peut ne pas être d'accord. Et ça, c'est pas un souci. Mais expliquons-nous. Ah, tiens, mince, ouais, ah, j'ai agi comme ça, j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, parce qu'on a tous des arrière-plans, on a tous, on va dire la même chose, mais le vocabulaire qu'on va utiliser va pas résonner de la même manière chacun. On a tous une histoire. Et quand en face, on a quelqu'un qui nous dit, c'est comme ça, et puis tant pis pour toi, quand tu seras éclairé, ben tant mieux. Et ben c'est pas ça en fait, Paul il est en train de dire justement, faites pas ça. N'attendez pas que tout le monde soit arrivé, aidez-les à marcher. Et en attendant, ben ne le faites pas, ne le faites plus. Ou en tout cas vous faites pas voir. Est-ce que je suis prêt moi à renoncer, à agir différemment pour le bien des frères et sœurs? Et ça c'est vraiment la question de l'amour. Hein. Il dit agir différemment, non pas parce que c'est pas bien ce que vous faites. Il leur dit, hein, vous pouvez manger, ça c'est pas un problème. Mais en mangeant, vous embêtez vos frères. Vous êtes un obstacle. Vous êtes celui qui vient souiller sa conscience indirectement. Et il va même aller plus loin. Hein. Parce que là, il leur dit, voilà, tout le monde n'a pas la même connaissance. Par amour, agis pour le bien de ton frère. Ça rappelle les versets, hein, les premiers versets, verset 1. Manger ou ne manger n'apporte rien. Donc, la liberté, eh ben, c'est pas être une pierre d'achoppement pour son frère. La liberté en Christ, c'est être une liberté d'amour. Et sous prétexte de liberté, tu dois pas embêter et faire tomber ton frère. Et après, il dit, attention, il y a aussi une deuxième chose, c'est pour ne pas pécher. Et après, il continue, hein, ça c'est 8 à 13, c'est la fin. Il dit, ainsi, à cause de la connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. Alors Paul, il développe, hein, vous avez vu, il dit, voilà, là, c'est la relation entre frère et sœur. Si ça, c'est par amour, vous devez changer. Mais il dit, attention, parce qu'il y a l'autre dimension. Il fait là, vous péchez, et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Il dit, là, vous péchez contre votre frère et sœur. Parce que à cause de ta connaissance, et là il accuse bien la connaissance sans amour, une connaissance qui est complètement orgueilleuse ou insensible, qui ne fait pas gaffe à la sensibilité des autres. Et il dit, voilà, vous avez cette connaissance, elle vous rend orgueilleux, et moi je vous pousse à agir différemment pour le bien des autres, mais aussi parce que cette attitude qui entraîne la chute de votre frère moins infirmi, c'est un péché contre ce frère et contre Christ lui-même. Parce que Christ est mort pour ce frère. Et vous méprisez ce frère, et vous n'en tenez pas compte, et donc vous péchez contre Christ. Il dit que vous êtes en train de faire des choses que vous dites ne pas faire. Vous dites aimer Christ, et vous êtes en train de pécher contre lui. Vous dites on est libre en Christ, mais par cette liberté, vous êtes en train de transgresser la loi d'amour de Christ. Il dit, vous vous rendez compte? Vous déstabilisez. Et finalement, ça vous arrive à vous qui êtes si connu, la connaissance. Et ben, ça vous amène à être des pécheurs. Ça vous amène à être des pécheurs parce que vous blessez votre frère, parce que vous faites tomber votre sœur. Et vous péchez contre Christ. Et pourtant, ils l'adoraient. Et pourtant, ils étaient, je suis sûr qu'ils étaient sincères dans leur manière de vivre. Mais il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore saisies totalement. Leur connaissance et leur liberté étaient devenues des obstacles, des pièges pour une partie de l'Église. Et on le verra, c'est pas fini. Il y en a un paquet dans 1 Corinthiens. Il va leur dire souvent que l'amour, 1 Corinthiens 13 par exemple, c'est voilà, pourquoi ils placent ça là? Parce que c'est l'amour qui leur dit, vous connaissez, vous vivez plein de choses, mais vous aimez mal en fait. Vous aimez mal, et si vous aimez mal, c'est parce que vous connaissez pas Dieu. C'est pour ça qu'il les appelle à connaître Dieu. Il dit, voilà, aime Dieu, connais Dieu, et tu seras connu de lui, et tu vivras d'une meilleure manière. Paul commence ce chapitre par l'amour. On l'a vu, L'amour, il dit la connaissance, attention, la connaissance, ça peut être de l'orgueil, mais l'amour édifie. Et là, on est clairement pas dans l'édification. En lisant ça, on dit, à cause de la connaissance, le faible ira à sa perte. Alors là, on n'édifie pas du tout, là. On est en train de détruire. On est en train de perturber, on est en train de perdre les autres. Et il dit, vous dites adorer, mais vous aimez pas bien. Et vous êtes des pécheurs, du coup. Et il dit maintenant, par amour, vous devez être prêt à renoncer à vos libertés. La liberté égoïste qui amène le frère à tomber. Il dit, par insensibilité, il y a de péché contre les frères et sœurs. Pire encore, on pêche contre Christ, comme il dit. C'est contre Christ que vous péchez. Voilà. Il le martèle pour bien faire saisir aux Corinthiens que le Christ par lequel ils sont sauvés, ils sont en train de salir son nom. Et il dit, la liberté, voilà, c'est pas une pierre d'achoppement pour faire tomber ton frère. Il dit, édifier avec patience et non par orgueil. Devenir insensible, devenir égoïste. Moi, je vais bien. Tant pis si t'as pas compris. La Bible, elle dit ça. Tant pis si tu comprends pas comme moi. Et là, t'as un espèce de verrou qui fait perdre plein de gens. Et là, il dit, non, c'est pas ça que vous devez faire. Si ton frère, il a un problème avec ça, ben, ne le fais pas. Et il leur dit, c'est ça, c'est le point important, l'orgueil et l'amour, et on le verra dans plusieurs choses, l'orgueil des dons, l'orgueil de vivre la scène. Il y a plein de choses, en fait, qui vont pas saisir. À chaque fois, il y aura soit l'orgueil, soit l'amour. À chaque fois, Paul va recentrer l'amour dans leur culte, dans leur vie ensemble. Appelé à vivre d'une vraie manière, pour ne pas pécher. Car nous péchons contre les frères et sœurs, nos libertés sont bonnes. Il n'est pas en train de dire que la liberté et la connaissance sont mauvais. Il dit, c'est ce que vous en faites qui est pas bon. Parce que vous avez oublié la loi première. Aime Dieu et vis de la manière de Christ. Il est prêt à renoncer. Et Paul se prend un exemple, Paul se prend un exemple. Il dit, moi, je serais prêt à renoncer. J'en mange pas de la viande si c'est prêt pour faire tomber mon frère. Et il le dira plus tard aussi, je me suis fait à tous, avec les juifs, je me suis fait juif, comme étant sous la loi, bien qu'étant sans la loi, sous la loi de Christ. Après, il dit, avec ceux qui étaient sans la loi, je me suis mis sans la loi, même si j'avais la loi. Voilà, il va s'adapter à tout le monde. Il va choquer personne. Pourquoi? Pour en gagner un plus grand nombre. Il n'est pas en train de dire, juste de ma liberté, je change mes mots. Non, il va utiliser toujours les mêmes mots, mais il va se mettre au niveau des uns et des autres. Pour ne pas choquer, pour ne pas heurter, pour être avec eux, pour les aimer là où ils en sont. Et comme manger n'apporte rien, eh ben il dit, passez-vous de ça. Prenez le bien de l'Église en premier. Et sans juger, comme il dit dans Romains 14:14, ça c'est dans une autre lettre aux Romains, il dit, je sais que je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Et si qu'une chose n'est impure, que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus dans l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte pour lequel celui Christ est mort. Voyez, il leur dit la même chose aux Romains. Ne te brouille pas pour ça. Ça c'est un aliment, mais ça pourrait être n'importe quoi aujourd'hui. Ne nous brouillons pas, ne brisons pas l'amour que Christ nous demande. Ne cause pas la perte à cause de quelque chose pour ton frère, ta sœur. Ça vaut pas le coup. Et c'est pas ça, agir différemment. Renoncer à la liberté par amour de l'autre, c'est ce qu'on disait tout au début, est-ce qu'on est prêt à le faire? Voilà, Paul se cite comme exemple. C'est ce qu'on vient de dire. Il est prêt, lui, il dit, bon, moi je le fais. Après, il invite à ce que les gens vivent pareil. Et après, il va On va conclure. À travers tout ça, on voit que la sagesse et la connaissance, c'était la culture de Corinthe. Mais la culture, c'est difficile à s'en sortir. Il y a quelque temps, j'avais montré à quel point la culture peut nous impacter dans notre vie, et dans comment on croit, comment on lit la Bible. On va avoir du mal, des fois, à sortir de cette culture sans nous en rendre compte, que ce soit aussi une culture d'église. Et ça reste un obstacle pour cette église. Et c'est pour ça que Paul, il dénonce pas la connaissance et la sagesse, mais il dit, voilà, c'est la sagesse de Dieu. C'est la connaissance dans l'amour. Il va dénoncer cet orgueil qui va découler. Parce qu'il dit, là, vous faites pas bien, vous faites chuter. Vous manquez d'amour. Et donc, si vous manquez d'amour, je vous appelle à aimer Dieu d'abord. Et c'est ce qui commence, c'est les versets 1 et 3. Pour être connu de lui. Ça, c'est important. Nous sommes appelés à construire et à édifier dans l'amour. Et pas à piétiner. Grandir en connaissance, en sagesse, oui. Mais se grandir en même temps. Avoir la connaissance tous ensemble, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, qu'on grandisse chacun en connaissance, en intelligence et en amour. Pour pas qu'il y en ait un qui fasse tuer l'autre ou qui étouffe l'autre. Mais attention à l'orgueil. On n'a pas oublié nos frères qui sont en marche, que nous pouvons choquer, ça c'est vraiment ça. N'oublions pas aussi les différentes sensibilités. Ça c'est aussi Romains 14, verset 3, je vous le lis aussi, il dit voilà. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Voilà, Paul il dit, attendez, si c'est pas grave, on juge pas. Va pas mettre une loi là où il n'y en a pas, et puis entendez-vous dans l'amour, c'est pas important. C'est pas important ces choses-là, ce qui est important c'est connaître Dieu, et être connu de lui, apprendre à l'aimer. Et voilà, il apprend, il annonce, il dit, et soyez prêts à renoncer par amour à des choses que vous trouvez bien, et vous n'avez pas tort de les trouver bien, elles sont pas fausses, mais pour le bien et l'édification de l'église locale, il dit renoncer à votre liberté pour prendre soin des autres, au risque de pécher contre Christ. Plaçons l'amour au cœur même de nos libertés, pour ne pas faire tomber notre frère dans le péché, ou dans la tourmente, ou que nous tombions à cause d'un frère ou d'une sœur. Nous aussi, on peut être aussi celui qui est faible parfois. Et dans l'Église, ainsi, ça va édifier. C'est pour ça que je terminerai avec ce dernier verset. C'est pas le verset complet là que j'ai mis, mais c'est vraiment ce leitmotiv que Paul a inscrit dès le début. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Avant même de répondre aux questions, voilà ce que Paul va dire, parce qu'il a saisi la difficulté qu'on peut avoir dans les cœurs. Que c'était dans le cœur des Corinthiens, ça peut être dans les nôtres aujourd'hui. Il appelle vraiment à cet amour, au renoncement. Et il sait que c'est pas facile, et c'est pourquoi la lettre va continuer, mais déjà là, il a déjà planté les graines de ce qu'il faut. D'aimer et prêt à agir différemment. Amour ou connaissance. Agir différemment pour le bien de tous et pour le rayonnement de l'Église.